Au cours d'histoire, on me disait souvent que quand on étudiait la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi, que les Allemands étaient tous nazis, quelque part. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, je me suis rebellé contre cet enseignement et j'ai demandé à mon professeur d'histoire en seconde de faire un travail sur la réaction de la résistance allemande au nazisme. Et c'est là que j'ai découvert Mgr von Galen. J'ai été confirmé dans mon idée en 2006 par le cardinal André 23 quand il me voyait faire la correction de l'ouvrage qui devait sortir à Parole et Silence. Il m'a dit: « Je vous félicite car il est important pour le public français de connaître la résistance allemande et la résistance chrétienne au nazisme. » Nous avons à découvrir que, effectivement, nos voisins allemands ont aussi eu de la résistance. Certains ont été béatifiés, comme von Galen, il y a 11 ans maintenant. Et je crois que le pape Benoît XVI a souligné cette figure de chrétien, de pasteur et de citoyen.
Mgr von Galen est à la fois un dignitaire de l'Église et une figure de la résistance en Allemagne. Cet homme a donc su concilier ses prises de parole en public et ses actes au plan individuel. Pourriez-vous nous en donner quelques exemples?
Dès l'arrivée du nazisme au pouvoir, Mgr von Galen n'était pas encore évêque. Il était encore curé à Berlin. Ce sera le premier évêque nommé après la signature du concordat entre l'Allemagne et le Saint-Siège. Et premier exemple, dès le début, il va s'opposer au nazisme. D'abord, il va commencer par publier un catéchisme. Il va reprendre le catéchisme de Pie X, mais il va le commenter comme un livre anti-manifeste de Rosenberg. Premier point. Ensuite, dès qu'il va apprendre les événements de la nuit de cristal, il va réagir. Il se rendra personnellement à la synagogue qui a été détruite pendant la nuit. Troisième point, il a des paroles fortes. On le verra que justement, ces paroles du mois d'août 1941 vont avoir une répercussion internationale très très forte. L'évêque aura aussi le courage de soutenir des prêtres d'autres diocèses d'Allemagne. Il faut se rappeler que, par exemple, tout le mouvement de la Rose Blanche des étudiants à Munich, Sophie Scholl, par exemple, dira dans l'interrogatoire, parlera justement de von Galen qu'il a éveillé sur la réalité du régime.
Et comment les autorités nazies se positionnaient-elles face à cette figure emblématique?
Mgr von Galen est issu d'une famille de haute noblesse allemande, donc en lien avec tous les officiers, les hauts officiers de la Wehrmacht. Et Mgr von Galen a eu le courage de se positionner, même à l'intérieur de l'épiscopat, en disant: il faut utiliser l'opinion publique pour obliger le régime à céder quand le régime attaque l'Église et les droits de l'Église. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas peur de prendre la parole. Par contre, comment réagit le régime? Tout particulièrement après la révélation du discours du mois d'août des prédications de juillet et août 1941, Hitler est obligé d'arrêter l'opération T4, qui est l'opération d'euthanasie des non-productifs, au moins publiquement. Il dira: il faut régler son compte à cet évêque. Et Goebbels a essayé de le calmer un peu en disant: oui, mais vous savez, avec les liens avec le catholicisme, où les catholiques sont très nombreux dans cette partie de la Westphalie, des catholiques sont nombreux aussi dans la Wehrmacht, et puis, bon, dans certains sens, il faut faire attention. Parce que le grand point où l'évêque a touché dans son discours a été: si nos soldats sur le front reviennent blessés, vont-ils terminer comme euthanasiés? Donc, la grande souffrance de l'évêque a été que justement, on va pas le toucher personnellement, mais on va toucher ses prêtres. Ce sont les prêtres de son diocèse, une bonne cinquantaine, qui vont passer au camp de concentration à Dachau.
Aller à contre-courant, c'est s'exposer, c'est accepter la prise de risque. Selon vous, comment cultiver aujourd'hui ce sens du courage et de l'engagement pour le collectif?
Alors, en reprenant l'exemple de Mgr von Galen, je crois que son point essentiel, c'est qu'il se fonde sur sa foi. Donc, je crois que pour nous, aujourd'hui, nous avons à repartir sur cette base de la foi qui nous permettra de redécouvrir avec force notre engagement chrétien dans la société.
Les périodes de troubles sont aussi des périodes de transition, où il devient vital d'inventer et de mettre en place un contre-modèle. Peut-on les considérer comme une chance pour réveiller nos consciences souvent anesthésiées?
Je crois qu'effectivement, cela peut être un bon point de départ. On le voit dans l'exemple de Mgr von Galen, on le voit dans l'exemple de von Preysing, on le voit dans l'exemple des évêques de la résistance allemande par rapport au nazisme. Mais on le voit aussi aujourd'hui que face à l'adversité, face à la persécution, face à des conflits, on voit justement nos frères chrétiens. Bon, le pape hier encore parlait du père Jacques Hamel. Il y a un éveil, un réveil. La foi, elle existe. La foi, on la vit. Bon, mais face à une contradiction, face à un conflit, elle se manifeste encore mieux.